l'orchestre s'est mis à défiler. Une musique joyeuse a envahi la place et la foule a applaudi. Ensuite, les files de soldats sont apparues et ont avancé en sinuant trois colonnes serrées qui s'élevaient et retombaient à chaque pas. BA 5799 les regardait venir. Il les connaissait tous. Il avait été l'un des leurs, un de leurs meilleurs éléments. L'arrogance d'une telle pensée ne le gênait pas, elle n'avait à présent aucune importance. Il avait commis une erreur qui le confinait au petit groupe de spectateurs. Même s'il avait voulu défiler avec eux, il n'aurait pas pu. Soudain, il haïssait l'idée qu'ils le voient comme ça, brisé et mutilé. Il ne voulait pas s'avancer là-bas, devant la foule qui regardait. Il voulait retrouver le centre, ses différentes règles et ses mesures pour réussir, qu'aucun d'eux ne comprendrait jamais. L'endroit où il pouvait être le meilleur. La foule s'est mise à applaudir. BA 5799 s'est demandé ce qu'elle applaudissait. « Vous ne devriez pas applaudir l'échec », s'est-il dit. Il a eu honte et il aurait voulu qu'elle cesse. Il a rejoint la première rangée d'hommes et il a attendu, après avoir mis la canne devant lui afin qu'elle supporte son poids. Ses moignons tremblaient et lui faisaient mal. Et il voulait que ça se termine.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
Ce jour-là, de très longs mois après avoir sauté sur un engin explosif dans un pays lointain où s'éternise une guerre ingagnable, puis ramené moribond dans un hôpital en Angleterre où il a été amputé des deux jambes, le capitaine Tom Barnes va recevoir, avec d'autres soldats blessés sur ce même théâtre d'opération, une médaille qu'il rangera dans un tiroir, à peine de retour chez ses parents. Cette cérémonie à laquelle il assiste, plein de honte et de douleur, nous est racontée par cette médaille, tout comme sa guerre, sa blessure, ses opérations, sa lente récupération et son retour à une vie autre, nous sont relatés par 45 objets banals, ceux de son paquetage, ceux de l'hôpital, de son nouvel environnement, et pour finir, par ses prothèses en fibre de carbone, avec lesquelles, aux dernières pages de ce livre prenant, Tom Barnes s'apprête à aller courir dans un parc, comme un jogger, comme un autre. Anatomie d'un soldat, traduit par Christine Laferrière, paru en septembre dernier chez Christian Bourgois, est le premier livre d'Harry Parker. Engagé en 2007 en Irak, puis en 2009 en Afghanistan, où il sera affreusement blessé comme son double de papier. Un livre composé de 45 chapitres qui racontent chacun, dans le désordre, par la voix d'un objet, un moment de l'histoire d'un homme qui a surmonté ce à quoi il ne devait pas survivre. Un livre qui, pour son auteur, n'a pas servi de thérapie, comme on pourrait le croire, mais qui, au contraire, n'a pu être pensé et réalisé qu'après son retour dans la vie. Une vie autre, certes, mais à laquelle, dit-il, il ne changerait rien. D'une écriture élégante, sans le moindre pathos, c'est très différent de tous les livres écrits par des vétérans des guerres du Moyen-Orient, cette anatomie d'un soldat marque la renaissance d'un homme et la naissance d'un écrivain. Harry Parker, qui vient de rencontrer ses lecteurs aux dernières assises internationales du roman à la Villa Gillet à Lyon, est aujourd'hui l'invité de l'humeur vagabonde et Xavier Combes sera notre interprète.
Des hauts plateaux, vers des châteaux en Espagne et des promesses d'eau. Épuisés de poussière, piétinant le destin, quelques filles et leurs mères ont levé haut le poing. Belles et solidaires, sans jamais reculer. Dans ces moments-là, c'est la vie qui danse. Dans ces moments-là, c'est la vie qui va. Dans ces moments-là, c'est la vie qui donne. Dans ces moments-là, une envie de vivre. Ça se calme pas
pendant l'hiver. Ça recommence en été. Et toutes nos paroles en l'air sont bien vite oubliées. Rester là sans rien faire, c'est bon pour l'éternité. Cette vie j'en fais mon affaire, je ne pense qu'à l'aimer. Comme on aime un amour, sans jamais s'arrêter.
Danser dans ces moments-là, c'est la vie qui danse. Danser dans ces moments-là, c'est la vie qui va. Danser dans ces moments-là, c'est la vie qui donne. Danser dans ces moments-là, une envie de vivre bien au-dessus de moi. C'est comme ça que le monde changera. Ces moments-là, c'est la vie qui donne. Dans ces moments-là, une envie de vivre.
Bonjour Harry Parker.
Bonjour Catherine.
Donner la parole à des objets est une forme assez peu usitée en littérature. On la rencontre davantage en poésie. Est-ce que vous avez d'abord essayé d'écrire cette histoire, l'histoire de Tom Barnes, une histoire qui ressemble à la vôtre? Est-ce que vous avez essayé de l'écrire d'abord dans une forme plus traditionnelle, raconter l'histoire? Et est-ce que faire parler les objets a été pour vous presque une mesure de sécurité, c'est-à-dire vous mettre à distance de trop d'émotions?
I tried lots of different ways of approaching the story. I think because it was so close to my own experiences,
de nombreuses tentatives de forme. Étant donné la proximité avec mon expérience, il m'a fallu, comme vous le dites, un tampon, un filtre entre la réalité et mes émotions. Tout cela est lié à ce caractère britannique de pudeur, vous savez, on ne veut pas trop s'épancher. Et par ailleurs, j'ai voulu aborder de façon indirecte l'aspect politique de la chose. À force de tentatives, je me suis lancé dans cette forme de récit par la voie des objets. Sinon, je m'étais penché, par exemple, sur le point de vue des animaux. Ça n'a pas marché.
Et
d'abord, il y avait le garrot, lorsque Tom Barnes est blessé, il est donc à plat ventre, dans la poussière. Et le garrot décrit ce moment-là. Et j'ai écrit un petit peu comme une nouvelle, de la poésie. Et puis, je me suis dit, jusqu'où je peux aller avec cette idée de l'objet qui parle? Comment raconter cette histoire d'une façon nouvelle pour moi qui me permettrait de toucher du doigt mon expérience sans pour autant trop m'épancher dessus.
Mais avant de vous engager dans l'armée britannique, Harry Parker, vous aviez suivi des études d'art. Vous dessinez, vous peignez, c'est une passion, vous le faites, d'ailleurs vous continuez à le faire. Est-ce qu'au fond, ça vous a influencé justement dans l'écriture de ce livre qui est composé un peu comme un tableau cubiste par petits morceaux éclatés que l'on peut assembler un peu comme on veut. Est-ce qu'en fait vous vous retrouvez en tant qu'artiste dans l'écriture de ce livre?
I think having that background before I joined the military,
avant de m'engager dans l'armée, en effet, je travaillais dans l'art. Vous me direz, c'est le grand écart, hein, passer de l'art à un univers militaire bien moins créatif, pétri de règles et d'obligations. Étant donné donc cette expérience de l'art, ça m'a permis d'être un petit peu plus courageux dans mon écriture. Et j'imagine que ça m'a donné plus de hardiesse quant à la façon d'exprimer les choses.
thought, because je ne me préoccupe pas trop de ce que les autres pensent, parce que
quand on fait de l'art et qu'on est préoccupé par la pensée des autres, évidemment, ça ne va pas marcher. Donc, lors de l'écriture même, je ne suis même pas allé sur Internet pour voir si quelqu'un d'autre avait adopté cette forme avant moi, et je ne voulais pas voir que quelqu'un d'autre avait adopté ce format juste avant moi. Je voulais vraiment m'isoler et me plonger dans cette forme d'écriture. Ayant dessiné avant de m'engager dans l'armée, je me dis que mon écriture est plus visuel, c'est ce qu'on me dit aussi, mais cela donne une certaine discipline. Et quand on est militaire, on se lève à 7h du matin, il faut bien avoir la chemise bien repassée, et ainsi de suite. Et ça aussi, ça m'a donné cette discipline nécessaire à l'écriture. Donc, il y a l'aspect créativité, mais il faut quand même faire le boulot.
Harry Barker, il y a eu évidemment pas mal de livres écrits par des Américains ou des Britanniques sur cet engagement terrifiant en Irak et en Afghanistan. Moi, je pense à Kevin Powers avec ses Yellow Birds ou à Phil Clay, Redeployment, qui était venu en parler d'ailleurs dans cette émission. Et ce qui est frappant dans votre livre par rapport à ceux des vétérans qui sont passés à l'écriture, c'est que dans votre livre, il n'y a jamais de pourquoi. On ne répond pas à la question pourquoi, pourquoi je suis là, pourquoi je fais ça. Pourquoi est-ce que mes chefs me demandent de faire ça? Vous, il n'y a que des comment. Comment j'ai fait pour m'habiller? Comment j'ai fait pour aller combattre? Comment j'ai parlé aux insurgés? Comment je me suis relevée de ces blessures dont je ne devais pas me relever? J'imagine quand même que vous vous posez vous-même les questions, mais que vous n'avez jamais voulu les mettre dans la bouche de Tom Barnes. Est-ce qu'elles demeurent chez vous quand même?
I think, with the book, because it has sort of three parts to it. It has the part.
Ce livre est décomposé en trois parties. D'abord, il y a Tom Barnes qui se remet physiquement, donc une lutte. Comment en effet apprendre à remarcher? Donc ça, c'est mon expérience. Puis il y a une partie plus romancée, donc avec les insurgés. Et pour moi, il était très important d'avoir ce fil là. Avec le récit de Tom Barnes. Parce que, en tant que soldat, j'étais sans arrêt en train de me demander ce que c'était que d'être dans la peau de l'ennemi. Le pourquoi de ma présence, c'est une question à laquelle je n'ai pas voulu répondre. Et j'ai voulu me tenir à l'écart de la politique et ne pas donner le nom de Dieu. Alors les gens qui lisent le livre savent très bien qu'il s'agit de l'Afghanistan et de l'Irak, mais pour moi, je voulais un petit peu d'espace libre autour de cela. En tant que soldat, le comment importe. Comment est-ce que je dois faire ça? Comment est-ce que je peux faire ce que j'ai à faire en étant, en nuisant le moins? Parce qu'évidemment, on se balade avec une arme. Et lorsqu'on a des armes, des drones, des technologies, des missiles, et qu'on se trouve là pour participer à un processus de sécurité, c'est difficile de ne pas nuire. Du moins, pas plus que dans le but de la mission. Donc, toutes ces questions me sont tombées dessus lors de l'écriture. Mais quand j'étais militaire, je me suis engagé dans l'armée parce que je voulais un peu d'aventure, j'étais bien payé, ainsi de suite, mais le pourquoi de la mission, c'est une question politique qui m'intéressait. Bon, le gouvernement avait pris cette décision, c'est un gouvernement que j'avais participé à élire, et donc... Moi, mon objectif, c'était d'être un bon soldat dans une culture étrangère qu'on n'a pas les moyens de comprendre du tout. Cette autre culture, je n'ai aucune possibilité de la comprendre, même encore aujourd'hui, mais cette écriture de livre constituait une tentative.
Alors, nous allons écouter Harry Barker, la lecture d'une page de votre livre. C'est justement le jour de l'accident. Celui de Tom Barnes n'est pas la même date que le vôtre. Celui de Tom Barnes, c'est le 15 août 2009. Et cet événement est raconté par les plaques d'identification du soldat qui se retrouve sur sa poitrine alors qu'il est couché sur le sol.
Ils ont découpé tes vêtements et placé ton garrot en haut de ta jambe sans pied, qui n'était qu'éclat d'os pointu. d'un rouge foncé et empli de boue et de terre sous ton pantalon en lambeaux. Ils ont tourné sa barre jusqu'à ce qu'il soit serré et interrompe tes saignements. Ils ont trouvé des plaies ouvertes sur ton autre jambe et placé un garrot au creux de ton aine, si bien que tu en avais un à chaque jambe. Ils se sont rendus compte que tu ne respirais plus et ils ont insufflé de l'air en toi. Tu es revenu. Il régnait nuit et douleur. Tu as tenté d'ouvrir les yeux, mais tu étais aveugle alors que tu combattais la douleur et serrais les dents. Ils ont soulevé une poche de liquide transparente au-dessus de nous. Ils t'ont extrait de ton gilet pare-balles. Ils ont découpé ta chemise de combat et tu t'es retrouvé allongé, nu, sur la terre craquelée. Je reposais toujours sur ton torse et leurs mains laissaient des traînées de ton sang sur ton corps blanc, là où ils te touchaient. Tu t'es mis à les implorer. « Sauvez-moi, je vous en supplie », as-tu dit maintes et maintes fois. Puis tu leur as demandé de faire que ça cesse, tu as levé la tête et elle s'est balancée aveuglément en rond. Ils t'ont dit de te taire, ils t'ont de nouveau fait reposer la tête sur le sol et tu ne les voyais pas t'envelopper de pansements ni bander ta jambe pendant que la douleur augmentait au point de devenir toi tout entier. Tu t'étais imaginé être courageux en cas de blessure. C'était toujours une blessure infligée par une balle et tu aurais poursuivi le combat, commandé tes hommes dans la bataille, puis tu serais rentré au camp, un pansement sur ta plaie et tu aurais été un héros. Mais il n'y avait rien de courageux dans ce qui t'arrivait. Aucune dignité. Tu étais brisé et absolument pitoyable. Étendu dans la poussière, pendant qu'il restait accroupi auprès de toi pour essayer de t'empêcher de te vider de ton sang, la douleur a ressurgi. Il faisait noir et tu ne t'étais jamais senti seul à ce point. Tu les as implorés une fois de plus, mais c'était trop. Et tu es redevenu inconscient.
Harry Parker, il y a donc, je le disais, 45 objets de la vie du soldat, Tom Barnes, et de la vie des insurgés par lesquels vous racontez votre histoire. Est-ce que vous avez écarté certains objets qui ne répondaient pas à votre façon d'envisager l'écriture ? Est-ce que certains vous déplaisaient ? Est-ce que certains étaient trop présents ? Est-ce qu'il y a eu des objets qui ont été rétifs à votre écriture ?
Les objets sont arrivés instinctivement sous ma plume.
I mean, I think the story had to be king, really.
C'est le récit qui devait prévaloir. Parfois, je me suis dit, bon, il me faudrait un cerf-volant.
Donc,
je me suis dit que les garçons afghans auraient un cerf-volant et que je pourrais me déplacer avec ça. Mais quand j'écrivais, j'étais plus préoccupé par le déroulement du récit. Par exemple, je voulais que les personnages se rencontrent, et ils se rencontrent au milieu du livre. Et c'est là que l'on décrit la culture du pays. Et on se dit à ce moment-là, quel objet peut relater cela ? Je me suis dit qu'un tapis persan pourrait accueillir les personnages qui viendraient pour s'asseoir dessus et parler. Donc, cet objet m'est arrivé ainsi. Donc, ce tapis vit une vie, une épopée, on le transporte, il va à l'autre bout du pays et ainsi de suite. Donc, c'est un petit peu comme ça. Je n'ai pas établi de liste prédéterminée d'objets. Il y a deux objets que j'ai retirés. Le premier, c'était la kétamine, un analgésique. La personnalité de cet objet était un petit peu trop forte pour moi. Et puis, il y a un autre objet qui s'est avéré inapproprié. C'est un petit peu comme quand on écrit un livre différent, je pense. Vous vous dites, tiens, ben, ce passage-là, il ne sert à rien, on va l'enlever. Ça m'est arrivé aussi.
Alors, dans cette liste d'objets, ce qui vous permet, Harry Parker, dans l'écriture, de vous tenir à distance du corps souffrant de Tom Barnes, il y en a quand même un qui, à mon avis, est celui aussi auquel vous avez, vous, dû être confronté. C'est au moment du retour à la maison, c'est se voir dans un miroir. Parce qu'au fond, à l'hôpital, le soldat blessé ne s'est pas vu. Il est entouré de camarades qui, eux aussi, sont blessés. Il serre les dents, il n'y a pas de pitié, il y a juste de l'aide pour remonter à la surface. Et puis, le retour à la maison, c'est se voir dans le miroir. Est-ce que pour vous aussi, ce moment-là a été un moment parmi les plus difficiles ?
I mean, I think that it's such a good point to raise about the book and
Oui, vous faites bien d'évoquer ce point. Ce moment était difficile parce qu'on est soldat, on est là pour servir. Moi, j'étais officier, donc j'étais meneur d'hommes. Et puis, on se dit que le pire ne peut pas arriver. Et on se retrouve dans une explosion. Je me souviens de cet événement, mais pendant une période, j'étais complètement sous calmant, inconscient, et je me réveille au Royaume-Uni. Donc on est bourré de médicaments, votre corps est affaibli, et puis en plus on est intubé de partout. Moi j'avais 13 opérations chirurgicales, où là aussi j'ai été anesthésié, donc c'est irréel cette période. Et à côté de soi, comme vous le dites, on voit d'autres blessés, autant sinon plus que vous. Et le sens d'apparence de soi-même n'a pas changé. Votre cerveau vous dit que vous occupez le même espace sur Terre. Donc quand je me suis vu pour la première fois dans un miroir, c'était étrange, parce que donc, imaginez qu'on est dans un fauteuil roulant, vous voyez quelqu'un au bout du couloir qui n'a pas de jambes non plus, vous dites, ah, ça a l'air étrange, mais en réalité, c'est moi aussi qui suis comme ça. Donc, je me suis vu dans le miroir, et c'est là que ça m'a frappé, que j'ai compris. Mais d'une certaine façon, je crois que nous avons tous une perception étrange. Vous voyez une photo de vous-même, vous ne vous reconnaissez pas, et quelqu'un d'autre vous dit, mais si, c'est exactement toi sur cette photo. Donc ça, c'était étrange, oui, le retour à la maison, et on se trouve dans un environnement très familier. Et il y a la petite marche qui fait quelques centimètres dont on n'avait même pas vu l'existence, et bien ça constitue un obstacle. Et là, c'est les deux moments, la marche et le miroir, qui ont eu un retentissement très très fort et qui m'ont fait comprendre ce que j'avais vécu.
I can see that you're giving up. It should not mean that much to me. And I don't know where the rest go. But everybody's been telling me no. Oh, woman, oh, 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 man, choose a path or a child, great mirrored plans. Oh, woman, oh, 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 man, take a devil by the head through yellow sands. And I can see that you're giving up. So tell me, it should not mean this much to me. And I don't know where the rest goes. Everybody's been telling me no. But I always have a thing for you. I move the earth, but nothing made you want me better. Steal the moon, and nothing made you want me.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
Kushan Khan lui a parlé de l'école. Le bâtiment a été détruit et il est trop difficile à reconstruire sans garantie pécuniaire. J'ai essayé, mais il me manque le soutien des autres familles. Elles se sentent menacées. Le capitaine comprend, lui a dit l'interprète. Il va faire son possible pour prêter main forte, mais il est conscient des difficultés. Il a l'impression que l'école est importante pour la région. Il a des fonds. Kushan Khan était en colère. Les fonds ne les empêchent pas de battre les enfants qui vont à l'école, ni d'arracher les portes et les fenêtres, ni de mettre le feu au toit. Vous croyez que ce sont des dollars qui vont résoudre tous nos problèmes ? Il dit qu'ils feront tout leur possible. Il comprend que ce ne soit pas facile pour vous. Mais nous allons bientôt devoir partir, sans quoi notre trajet de retour à la base sera plus dangereux. Il vous remercie pour le thé, a dit l'interprète en posant sa tasse sur moi. Dites-lui qu'il sortira d'ici, qu'il regagnera sa base et qu'avant le coucher du soleil, ils viendront me rendre visite. Ils entreront ici, ils s'assiéront là où il s'est assis et me demanderont ce que le soldat voulait et ce que j'ai répondu. Dites-le à votre capitaine. Le soldat l'a regardé, puis il a parlé lentement à son interprète. Il dit qu'il espère que vous n'avez pas pris un risque trop grand. Pour chacune des fois où je parle à un capitaine ou à un chef comme lui et que j'entends leurs promesses en matière de sécurité, d'enseignement, de ponts et de nouvelles routes ou bien d'argent, c'est 5 fois que je dois parler aux insurgés. Kushan Khan s'est levé. Les insurgés viennent ici pour me dire comment je devrais guider les miens et pour me faire des menaces, ainsi qu'à ma famille. Ils me puniront pour vous avoir invité ici aujourd'hui. Je comprends, a dit l'interprète. Mais lui, est-ce qu'il comprend ? A demandé Kushan Khan en désignant le capitaine.
Cette scène se trouve à peu près au milieu du livre « Anatomie d'un soldat » dont nous parlons avec vous, Harry Parker. Vous faisiez allusion tout à l'heure. Elle intervient racontée par un tapis afghan, sur lequel le capitaine Tom Barnes s'est assis avec un interprète pour aller rencontrer le chef du village. Et je disais, dans votre livre, il n'y a pas de pourquoi, mais on comprend quand même dans ces descriptions de conversations qui n'ont pas beaucoup de débouchés possibles, qu'il y a une sorte d'impossibilité à faire le bien en faisant la guerre. Or, tous les soldats alliés engagés en Irak et en Afghanistan sont persuadés qu'il faut aussi faire le bien des populations. Est-ce que, pour vous, décrire ce type de scène, c'est d'une certaine manière montrer quand même l'absurdité d'une guerre faite au nom du bien ?
It's a really difficult part of soldiering. It would be wrong if I was to say I didn't feel like we had done any good at all.
C'est très difficile cette question lorsqu'on est soldat. On était dans une certaine zone, on avait une certaine responsabilité et à nos yeux, on avait fait pas mal de bien. L'ennemi avait été repoussé, par exemple. Mais dans le livre, j'explique à quel point il est difficile d'être soldat. À un moment comme cela, aujourd'hui, je sais que la zone où nous avons été responsables est revenue à l'état initial avant qu'on arrive. Mais ce passage du livre est très important pour montrer la difficulté qu'il y a à être confronté à une situation comme ça. Je me souviens être arrivé dans la maison de Jean avec tout mon barda, le casque, le fusil, et ainsi de suite. Et je me suis demandé ce que les gens pensaient de moi. Et ça, je voulais le relever dans le livre. C'est difficile, évidemment, d'essayer de comprendre le point de vue de l'autre. Et à mesure que j'écrivais, je me posais la question de savoir ce que je penserais si je voyais un véhicule d'une armée occupante. Quel serait mon point de vue ? Je me suis dit, ben, peut-être que c'est moi qui serais en train de me poser des questions. C'était ça, la partie la plus difficile que d'être un soldat. Beaucoup plus difficile que de mener des hommes qui se demandaient pourquoi on était là. Parce que lorsqu'on est arrivé dans des situations comme celle-là, c'était très difficile d'être positif. Et j'essaye d'expliquer cela dans le livre.
Il y a quelque temps, le général David Petraeus, qui a été commandant en chef des forces alliées en Afghanistan, a dit que les Occidentaux devaient envisager la perspective d'une guerre perpétuelle là-bas. C'est terrible pour un soldat et un soldat qui a été blessé de se dire que c'est au fond une guerre qui n'aura pas de fin. Vous pensez que cette analyse de Petraeus, elle est exacte?
Well, I hope not. I think,
j'espère qu'il se trompe. Dans notre formation militaire, on nous dit que la guerre, c'est une extension de la vie politique. Et on espère que la politique reprendra ses droits pour remplacer l'insécurité et l'instabilité de la guerre en Afghanistan. Et dans les deux conflits auxquels j'ai participé, on voit que la situation politique ne s'est guère améliorée. Et si elle s'est améliorée, ben, l'orientation qui a été prise n'aurait pas pu être prévue avant les invasions. Prenons l'Irlande du Nord. Au Royaume-Uni, l'Irlande du Nord fait partie de notre vie depuis si longtemps, et dans les années 80-90, on a connu le terrorisme. Il nous a fallu 30 ans et des investissements énormes, et on comprenait quand même mieux l'Irlande du Nord, parce que c'était juste à côté de chez nous. Et on se dit, tiens, on va faire 6000 km et on va faire quelque chose de plus compliqué en moins de temps. Donc, ce n'est pas réaliste. Donc, à mesure que l'on quitte ces zones de conflit, on abandonne le droit d'avoir voix au chapitre. Mais si on met plus d'hommes au sol, peut-être que ça améliorera les choses, mais on n'est pas sûr. En tout cas, tout ce qu'on peut faire, c'est espérer qu'on reviendra à une situation où la politique reprendra ses droits.
Harry Parker, dans votre livre, il y a des pages très importantes. Une partie qui se passe à l'hôpital, au moment où Tom Barnes commence à être soigné, subit ses opérations, mais surtout au moment où il va commencer à apprendre à vivre dans son nouveau corps. Et on se rend compte que pour les hommes blessés qui tentent de se reconstruire à l'hôpital, le plus difficile, au fond, ce sont curieusement les visites des gens qu'ils aiment, des gens qui les ont connus avant, avec tous leurs membres, avec leur intégrité physique, et que c'est dans le regard des gens de la famille ou des amis qu'il y a le plus de douleur, au fond. Parce que dans l'hôpital, on n'est que dans l'effort, que dans vaincre les obstacles, alors que avec les gens qu'on aime, on est dans le domaine des émotions, et les émotions, c'est ce qu'il y a de plus difficile à surmonter.
Quand je me suis réveillé à l'hôpital, je me suis rendu compte que je ne pouvais plus être militaire. Il fallait que je quitte l'armée. Au contraire, il y a beaucoup de soldats qui se disent « Quand est-ce que je repars pour à nouveau me servir de ma mitraillette ?» Par ailleurs, il fallait que je comprenne l'évolution de mon corps, tous les tenants et les aboutissants médicaux pour comprendre ce que je subissais, tous les médicaments que j'ingérais pour que je participe au recouvrement de mon corps. Donc ça, c'est une mission comme pour un soldat. Je ne peux pas fumer. Il faut que je mange des choses saines. Il faut que je comprenne tout sur les infections, les médicaments. Donc ça, c'est une chose. Et puis après, il y a les visiteurs et aux parents les plus proches. C'est formidable qu'ils soient là. Et puis c'est la même chose pour les amis. Les amis très proches. Mais il y a les autres qui sont venus me rendre visite. Et ça, c'est particulièrement épuisant. J'avais l'impression qu'il fallait que je sois sur scène pour montrer quelque chose. C'était éreintant pour moi. Donc, une ancienne petite amie m'a rendu visite, par exemple. Moi, j'étais gêné. Je ne voulais pas qu'on me voie comme ça, dans ce corps complètement cassé en mille morceaux. Bon, bref, c'était épuisant. Et mon père, un jour, m'a dit, tu sais, tu les aides, toi, alors que eux, ils ne t'aident pas beaucoup. Bon, je ne veux pas parler au nom de tous les soldats, mais cette expérience-là, c'est ça que j'ai ressenti dans les premiers jours après mon réveil à l'hôpital.
Mais il y a une scène qui est très déroutante pour le lecteur. Vous êtes pour la première fois, une des premières fois, dans un pub et vous buvez une bière avec un ami et vous lui dites... Je dis vous parce que c'est Tom Barnes qui le dit, mais on sent bien que vous l'avez dit sûrement. Si ceux qui m'ont fait ça rentraient ici, je leur offrirais une pinte. Et vous-même, vous dites, je ne changerai rien. C'est quelque chose d'incroyable de lire ça sous votre plume, Harry Parker. Vous ne changeriez rien.
Well,
Cet épisode-là n'a jamais vraiment eu lieu. Néanmoins, j'ai essayé de trouver un moyen dans le récit de me pencher sur ce thème de l'absence de la colère envers les gens qui avaient posé cette bombe qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Bon, je suis quand même souvent frustré de l'absence de membres inférieurs et puis je regarde mes prothèses qui sont à quelques mètres de moi et ça génère de la colère en moi. Mais en tant que soldat, j'avais fait ce choix et donc je ne ressentais pas de colère envers ceux qui m'avaient fait ça. C'est assez difficile à expliquer cette sensation de ne rien vouloir changer. Et parfois, c'est difficile à exprimer avec des mots. Parce que de toute façon, je suis impuissant, je ne peux rien changer, c'est fait. Mais pour tenter de le décrire, je dirais ceci. Lorsque j'étais blessé, et que j'étais à plat ventre, dans la poussière en Afghanistan, c'était la plus grande solitude que j'ai jamais connue. Et je pensais que j'allais mourir. Puis, je me suis réveillé et j'ai appris à marcher à nouveau. Et je suis revenu à moi-même. Et en raison de cette solitude que j'ai vécue, ma vie en est d'autant plus riche aujourd'hui. Les relations humaines, la relation par rapport au monde se sont embellies. Alors, je ne veux pas non plus verser dans un sentimentalisme facile, mais avant d'avoir été blessé, je me disais sans doute que ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort, mais ça, je ne le crois plus du tout maintenant. Il y a des tragédies qui sont des tragédies et il n'y a rien à en tirer. Mais je n'ai pas ce sentiment-là, moi. Je n'aurais pas épousé la femme que j'aime, je n'aurais pas la fille que j'ai aujourd'hui, et puis je n'écrirais pas de livre. Peut-être que je serais encore militaire sur le terrain d'opération. Il y a plein de sentiments mêlés. Dans ce passage-là du livre, j'essaye de décrire cela.
Une dernière lecture de votre livre « Anatomie d'un soldat » Harry Parker, c'est cette fois-ci par l'intermédiaire du fauteuil roulant que le soldat apprend à manipuler à l'hôpital.
Tu plaisantais avec les autres quant à savoir qui avait les pires blessures. Si tu troquerais une jambe en moins contre un bras en moins, et qui avait les cicatrices les plus laides. L'un d'entre eux avait dessiné au marqueur des yeux sur son moignon et utilisait un lambeau résultant de la mutilation, comme pour le faire parler. Une infirmière l'a rabroué, elle est partie en secouant la tête et il a transformé son moignon en frimousse triste. Vous vous disiez d'arrêter d'être pitoyable quand on venait nettoyer vos plaies et que vous faisiez la grimace. Quand n'importe qui grommelait ou haletait sous l'effet de la douleur, un autre lui demandait si le sniper fantôme lui avait tiré dessus. Vous riez en dépit de la douleur et disiez à tout le monde d'aller se faire voir. Et vous absorbiez la morphine qui vous rendait euphorique, puis vous donnait la nausée. Vous partagiez de la nourriture. Vous vous lisiez à voix haute des articles de journaux et vous dormiez. Des visiteurs emplissaient la salle, ils apportaient des cadeaux, des chocolats, des magazines et du bruit. Ils s'installaient en moi et te lançaient des regards. Certains avaient du mal, donc tu menais la conversation et les aidais de bout en bout. Ils se tordaient les mains sans savoir quoi dire. C'était pénible de te voir comme ça. Ils venaient en croyant que c'était ce qu'il fallait faire, mais tu détestais qu'on te voie brisé dans ton lit.
Harry Parker, en tout cas, cette nouvelle vie vous a permis de devenir écrivain. Une chose peut-être à laquelle vous n'aviez pas pensé avant d'intégrer l'armée. Est-ce que maintenant, cette vocation récente, est devenue pour vous quelque chose d'essentiel? Est-ce que ça sera votre vie maintenant, l'écriture?
Après avoir été blessé, je me suis mis à peindre. La peinture et le dessin ne me semblaient pas tout à fait appropriés pour décrire mes sentiments. Donc je me suis mis à écrire. L'écriture, c'est un exercice étrange pour la vie, comme de nombreuses occupations professionnelles d'ailleurs. On est seul face à la page blanche et on se dit, est-ce que je peux y arriver? Un jour, on se dit, bon, ça c'est la pire truc qui a jamais été écrit, puis le lendemain, on se dit, ah, je vais peut-être gagner le prix Nobel. Donc, ni l'un ni l'autre ne sera vrai, on est dans le meilleur des cas au milieu. Mais en tout cas, j'aime beaucoup l'écriture, c'est un défi que j'aime relever. Mais l'écriture, ça demande beaucoup de travail pour que ça marche. C'est une lutte, mais bon, j'accepte et j'aime beaucoup ça.
Mais vous aimez beaucoup, mais surtout les lecteurs, je pense, ont envie de vous voir dans cet exercice, parce que Anatomie d'un soldat est un très bon livre pour un premier livre. Et donc, on a hâte de voir s'il y en aura un deuxième. Est-ce que vous écrivez en ce moment ?
Oui, je suis en train d'écrire un nouvel ouvrage. Celui-ci est si autobiographique, il est sorti assez facilement. Aujourd'hui, maintenant, j'ai l'impression que je suis dans un mode d'écriture plus normal. Je fais des brouillons divers et variés, mais j'écris et il n'y a pas de soldats, il n'y a pas d'objets. Enfin, il n'y a pas d'objets. Si, il y a des objets. Un livre sans objets, ce serait... étrange, bref, les objets ne parlent pas et ne racontent pas l'histoire. Et encore une fois, il n'y a pas de soldats.
Merci infiniment, Harry Parker, d'être venu nous voir aujourd'hui. Je suis très heureuse de vous avoir reçu parce que je suis contente de vous avoir connu, surtout parce qu'à travers le livre, je me disais que vous deviez être un homme bien et j'ai l'impression que je ne me suis pas trompée. Ce livre s'appelle Anatomie d'un soldat. Il est traduit par Christine Laferrière et il est sorti aux éditions Christian Bourgois. Merci à vous.
Merci beaucoup.
Et merci à Xavier Combes, bien entendu.
Me out like I was
C'est donc fini pour l'humeur vagabonde de ce jour, mais bien sûr les assises du roman à Lyon, c'est jusqu'à ce soir, avec notamment à 17h un débat auquel je vous invite sur la justice entre Henri Leclerc et François Sureau. Pour nous, rendez-vous dimanche prochain, je recevrai Arthur Noziciel et Laurent Poitronneau pour la reprise de Yann Karski à La Colline. Et bien sûr, après les infos de 15h, vous avez rendez-vous avec Fabienne Chauvière et les Saventuriers. Très bon dimanche à l'écoute de France Inter.